Tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Chaque fois qu'ont lieu des élections, que ce soit en Suisse ou n'importe où à l'étranger, les partis engagés dans les joutes électorales scrutent avec attention leur score, évidemment. Plus il sera élevé, plus le nombre de sièges sera élevé. À la fin de la journée, on fait les comptes. Il y a les grands gagnants, les grands perdants, ceux qui stagnent et ceux qui parfois disparaissent même du paysage politique. En général, du moins en Suisse, les hausses et les baisses de certains partis sont spectaculaires, mais sur le long terme. La hausse progressive de l'UDC, par exemple, s'est faite sur plus de 2 décennies. La lente érosion du PLR ou du PDC s'est également faite sur de nombreuses élections. Parfois, il y a quelques à-coups. Un parti qui apparaît, gagne tout de suite quelques points, puis un autre qui s'écroule. Mais on parle dans la plupart des cas de quelques pourcents de plus ou de moins. Et pourtant, de l'autre côté de l'isoloir, il serait faux de croire que les électeurs évoluent aussi lentement avec le temps, que les jeunes de gauche deviennent progressivement de droite avec les années. Non, les électeurs peuvent se montrer très volatiles et voter très différemment d'une fois à l'autre. En Suisse, un électeur sur deux a modifié ses préférences au moins une fois durant la dernière décennie. Ça fait pas mal de changements qu'on va tenter de comprendre avec vous, Orsina Kuhn, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans Tribu. Vous êtes avec nous parce que c'est vous qui nous annonçait ce chiffre, Orsina Kuhn. Vous êtes chercheuse à la Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales, la FORCE, qui est basée à l'Université de Lausanne. Vous êtes chercheuse postdoc, comme on dit. Et c'est vous qui avez réalisé pour votre thèse cette étude sur la manière dont votent les gens et qui nous annonçait ce chiffre un peu surprenant. Un électeur sur deux, sur 10 ans, va finir par changer de parti. Ça vous a surpris, ce chiffre?
Oui, au premier vue, oui. Mais après, si j'y réfléchis plus proche, peut-être un peu moins. D'abord, en Suisse, on a beaucoup de partis, alors on a beaucoup de choix. Ça facilite aussi les changements. On a aussi beaucoup de partis qui sont proches. Et ce qu'on voit comme résultat, c'est toujours au niveau national, total. Alors, un changement de 26 à 29%, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de voteurs qui changent, par exemple, des verts aux socialistes, mais aussi des socialistes aux verts. Et comme ça, ça se contrebalance.
Oui, on va voir un petit peu tous ces changements. Et puis effectivement, on dit c'est énorme, 3 points, mais malgré tout, ce n'est que 3%. Mais si on regarde dans le détail, ça fait beaucoup de changements parfois à l'interne et des électeurs peuvent avoir des comportements assez étonnants. Alors peut-être avant d'entrer dans le détail de ces résultats, parce qu'il y a plein de choses passionnantes sur qui influence qui, pourquoi est-ce qu'on change, comment sur la longueur, en fonction de si on est marié ou pas, ou jeune ou pas, c'est assez passionnant. Comment est-ce que vous avez procédé? Parce que ce qui est assez unique, vous me dites quand je dis une bêtise, sur votre étude, c'est qu'elle porte sur 5000 ménages, plus de 10 000 personnes et sur une longue période de temps.
Oui, c'est vrai, c'est une base assez exceptionnelle et unique en Suisse avec qui j'ai travaillé. Ça s'appelle le panel suisse de ménages. Et depuis 1999, on interroge entre 4 000 et 13 000 personnes par année et on suit les mêmes personnes, les mêmes ménages dans le temps. Alors cette année, on a des personnes qui répondent la 17e fois à notre enquête qu'on le suit depuis 6 ans. Et à chaque année, on leur pose les questions, si demain il y aurait les élections, pour quel parti est-ce que vous voteriez? C'est pas toujours les élections réelles, pour ça on parle plutôt des préférences ou de l'intention de vote. Et là, on voit comment ça change vraiment d'année en année.
On voit l'évolution avec donc un échantillon très important. Vous dites depuis 1999, plus de 10 ans de données, 17 ans parfois même pour certains, pour les tout premiers. Alors donc première surprise, un Suisse sur deux a donc changé de parti au moins une fois. Ça vous paraît beaucoup, vous?
Oui, d'abord oui, parce qu'on pense de la stabilité et en plus les théories un peu traditionnelles du vote, ils partent de l'idée qu'on peut-être on développe son identité et après qu'on reste stable. Et ça, c'est
une fois qu'on a un parti, voilà, on a des idéaux et on les conserve a priori une bonne partie de sa vie.
Exactement. Ou peut-être on part en court terme et après on revient. Et c'est toujours assez dominant aussi qu'il y a l'influence de la classe sociale, de la région qui définit ça. Mais en fait, c'est pas ce qu'on observe. On observe vraiment une grande hétérogénéité des parcours.
Est-ce que les gens que vous interrogez, parce que je reviens un petit peu à eux, parce que ça m'étonne, est-ce qu'ils vous disent la vérité? Par exemple, on sait qu'on dit moins facilement qu'on vote pour l'UDC ou pour certains partis, ou, ça peut être d'autres partis évidemment, mais on n'ose pas trop le dire. Par contre, on le fait dans l'urne le plus facilement. Est-ce que vous avez l'impression que les gens que vous interrogez depuis de tellement nombreuses années vous ont dit la vérité?
On peut surtout pas exclure qu'ils disent pas la vérité, mais après ils ont pas tellement d'intérêt à nous pas nous dire la vérité. C'est anonyme l'enquête, c'est volontaire. On sait pas qui ils sont exactement. Et pour l'UDC, ça a changé.
Alors, c'est sûr que les sondages sont assez proches des résultats. Hein, lorsqu'on voit aux dernières élections fédérales, les sondages annonçaient plus ou moins le pourcentage qui est sorti, pas très loin de 30%. Donc ça veut dire que les gens au téléphone, maintenant, osent le dire. Il y a une forme de décomplexion.
Ça, c'est vrai. Les gens qui participent, ils disent. Mais on sait aussi que ceux qui supportent l'UDC, ils participent moins à l'enquête du premier place.
Mmh. Alors, ils ont moins tendance à participer à ce type d'enquête.
Ouais. Mais aussi les élections, mais parce qu'on sait, on peut corriger. Mais ce que j'ai regardé, moi, c'était moins exactement les partis, mais les gens qui changent. Et en fait, ceux qui participent à l'enquête, ils sont plus stables que ceux qui ne participent pas. D'accord. Alors on peut s'imaginer que les 50%, c'est peut-être plus bas que la réalité.
D'accord, donc c'est peut-être même, on peut imaginer un peu plus que ça. Alors on va essayer de voir ces différents résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on change de parti? Parce qu'on peut imaginer qu'on change, par exemple, des Verts aux socialistes ou vice-versa, ou du PLR au PDC. Bon, ok, c'est changer de parti, mais en même temps, on reste un peu dans la famille politique. C'est pas un changement non plus, on retourne pas vers Mansaveste.
Oui, c'est vrai, et ça explique la grande volatilité qu'on observe en Suisse, qui a d'ailleurs augmenté au cours de l'année, aussi avec la création des nouvelles parties, la transformation de l'UDC. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de changements entre des différents familles ou blocs de partis. Alors plus que la moitié de ceux qui changent, ils changent vraiment entre des familles politiques.
Oui, vous dites qu'il y a les changements importants. Hein. Vous avez classé les Suisses en trois clans, gauche, centre-droit et droite conservatrice, on va dire. Et il y a quand même un tiers de ces gens qui changent de camp, qui passent de la gauche au centre-droit, voire même de la gauche à... Ce n'est pas forcément que dans ce sens-là, hein. Ça peut aller dans tous les sens, de la gauche à la droite conservatrice. Donc les gens changent vraiment de camp, c'est ce que vous avez remarqué. Ça, c'est aussi surprenant, ça fait partie des surprises de cette étude.
Oui, c'est surprenant, mais j'ai quand même confiance à ces données parce qu'en fait, j'ai observé exactement plus ou moins les mêmes chiffres en Allemagne et en Angleterre, si on regarde les camps. Alors aussi en Angleterre, en Allemagne, dans une décennie, on voit un tiers qui change vraiment leur position politique.
Alors, qui sont ces électeurs volatiles? C'est peut-être ça un peu la question. On voit donc qu'il y a des changements, les gens sont sensibles à différentes choses, ils finissent sur le temps, en tout cas sur 10, 11 ans ou 15 ans, par changer de parti politique parfois, voire même de camp politique. On peut peut-être se demander qui sont-ils ces gens. On arrive à dresser leur portrait, on arrive avec les données que vous avez à savoir quel type de gens sont. Est-ce que ce sont tous les mêmes ou est-ce que c'est un peu n'importe qui? Enfin, c'est vraiment très divers.
Ça peut être n'importe qui, mais après, on trouve quand même un peu des profils des gens. Et c'est aussi la manière de changer, c'est différent. Par exemple, on trouve très, très peu. Bon, je trouve beaucoup qui changent, mais très, très peu qui changent aléatoirement. Souvent, on change une fois et après, on reste avec le nouveau parti. On change pour une année et après, on revient. Mmh. Alors, c'est quand même pas n'importe quoi. Les gens réfléchissent.
On change pas chaque fois, à chaque élection, quelqu'un qui fait un parti différent chaque élection. Ça, c'est très rare.
Il y en a, mais c'est vraiment très rare. Et ce qui était aussi étonnant, donc c'est vraiment souvent, c'est avec réflexion et c'est plutôt les gens qui s'intéressent beaucoup à la politique, aussi les biais éduqués qui changent très souvent.
Oui, alors ça c'est intéressant, parce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique soit plus influencé, on va le voir tout à l'heure, soit plus influencé par la campagne, par tel ou tel personnage d'un parti. En l'occurrence, c'est les gens qui s'intéressent à la politique, qui la suivent, qui suivent dans les journaux, dans la télévision, à la radio, qui vont changer de parti. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça s'explique?
Ça s'explique, mais c'est un peu plus compliqué. Mmh. Alors ceux qui s'intéressent très peu à la politique, qui sont bas niveau d'éducation aussi. Souvent, ils ne s'intéressent pas, ils ne lisent pas les médias, ils ne discutent pas de politique. Alors, ils sont aussi très peu d'opportunités pour changer leurs préférences.
Ils votent par tradition, en fin de compte, un peu plus,
oui,
ou par habitude.
Oui, ils votent, ou souvent, ils n'ont même pas de préférence. Alors eux, c'est plutôt, ils votent, mais après, entre les élections, ils ne savent pas, ils n'ont pas de préférence. Et lors d'une campagne électorale, ils retrouvent leurs préférences. Ça, c'est plutôt un changement entre pas avoir de préférence et un parti. Et après ça, avec un moyen intérêt politique ou moyen éducation aussi, ils changent plus entre des partis du même bloc. Et après ceux qui sont très intéressés à la politique, là, ça diffère. Alors, ils changent très, très souvent à l'intérieur d'un bloc politique, des partis similaires, mais ils changent moins entre des partis d'une idéologie différente.
Donc, c'est ceux qui vont carrément aller voir un peu les programmes, dire, si je vote vert ou socialiste, ah, ce coup-ci, non, le programme m'intéresse plus, mais je reste dans le même bloc, idem pour les blocs de centre-droit ou de droite conservatrice. On va aller regarder dans le détail, mais on reste un peu plus fidèle à sa famille, on va dire, politique, au groupe, à l'un de ces trois grands blocs, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. On sait aussi que ceux qui s'intéressent beaucoup, leurs opinions sont très proches aux opinions des partis qu'ils préfèrent. Alors pour ça, quand ils changent, ils ne trouvent pas beaucoup mieux.
Et ces campagnes donc, ont un sens, c'est peut-être ce qu'on pourrait tirer comme conclusion. Ça veut dire que les gens qui s'intéressent, voire même ceux qui ne s'intéressent pas vraiment, mais lorsqu'il y a campagne électorale, il va y avoir une influence vraiment directe. Parce qu'on aurait pu imaginer que bon, ces campagnes électorales, elles se font un peu par habitude parce que c'est le jeu politique qui veut ça. Mais en même temps, si on imagine que les gens ont leur avis bien trempé, puis qu'ils ne changent pas, puis qu'il n'y a pas de volatilité, on l'a fait un petit peu pour marquer le coup. Pas du tout. On voit que la campagne électorale a son importance et qu'elle influence une bonne partie des gens.
C'est aussi un avantage de ces données qu'on demande chaque année. Alors on observe pas seulement les gens après les élections, mais aussi quand il n'y a pas d'élection. Et là, on voit deux effets assez importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet d'activation. Alors les gens qui n'ont pas de préférence, ils retrouvent leur préférence quand il y a une campagne électorale. Mais aussi, ils changent plus souvent leur préférence. Alors ça, on voit vraiment, quand il y a les élections, il y a beaucoup plus de changements que des autres années.
C'est plutôt rassurant pour les partis, ça veut dire que le travail dans la rue, le travail qu'ils font au travers des médias, ça, c'est pas fait pour rien, disons.
Oui, je crois qu'il y a des raisons pourquoi ils dépensent aussi d'argent, alors ils le savent.
Et c'est prouvé par votre étude, Ursina Kuhn. Ils le savent, enfin, là, on le sait aussi grâce à vous, puisque ça a été chiffré grâce à ce panel, on l'a dit, de 10 000 personnes, hein, quand même, sur toutes ces années. Ursina Kuhn, nous parlons de la volatilité des électeurs suisses, plus particulièrement grâce à votre étude. On va vous retrouver après les Desiderata de Jean Barre.
C'est clair, c'est pas évident. Avec les casseroles du karma qu'on trimballe derrière soi quand la vie vous rentre dedans. C'est pas du gâteau de tirer un trait sur ses idéaux. Je veux Clinton au boxon, Chirac en avion et le pape en pantalon. Je veux Schumer au turbin, les banquiers sans un, le gros blanc en un jardin. Je veux sans abri au bris, le petit Sarkozy au RMI. Je veux Exit Mitterrand et ses 14 ans et moi président.
Pas d'augmentation de salaire.
Pas d'augmentation de salaire.
La droite ou la gauche, blanc bonnet, bonnet blanc. De méchants jeux de mots pour les jeux de vilains. Discours langue de bois et d'autres blabla. Je fais pas à froid de mon dégoût à moi. C'est clair que c'est pas évident. Avec les casseroles du karma qu'on trimballe derrière soi quand la vie vous rentre dedans. C'est pas du gâteau de tirer un trait sur ses idéaux. Je veux Clinton au plumard, Chirac au placard et le pape en pilier de bar. Je veux Chaumont au turbin, les banquiers sans un, le petit bras en eau de boudin. Je veux tout bon sans mairie, le petit Tibéri en Sibérie. Je veux Exit Didi et sa vie de Barbie et moi en tout bitrige. Elle signe au Viagra, langue chez les paras, un cigare pour Monica. Je me rends turbin, les banquiers sans un, le gros blanc en un jardin. Tapis sans Brejot, Castro, McDo, Juppé, en prolo. Et Miss Hillary, sous mon bureau.
Je veux les désidérata politiques de Jean Barre, aussi multiples que parfois contradictoires. Nous parlons de la volatilité des électeurs, mise en lumière par une étude que vous avez menée, Ursina Kuhn. Vous êtes chercheuse à la Fondation Suisse pour la recherche en sciences sociales. La Force, qui est basée à l'Université de Lausanne. Cette étude dont on parle depuis tout à l'heure, qui concerne 10 000 personnes à qui on a demandé pendant des années, mais qu'est-ce qu'ils votent? Plutôt à gauche, plutôt à droite, quel parti? Et on voit qu'il y a pas mal de changements, qu'il y a pas mal de volatilité. On l'a vu tout à l'heure, on a vu que les jeunes votaient étaient assez volatiles, hein. Ça c'est une chose importante. On va regarder maintenant avec vous, Ursina Kuhn, pourquoi tous ces gens sont volatiles en fin de compte? Est-ce qu'il y a des raisons? Et puis, est-ce qu'ils sont influencés par d'autres personnes ou par d'autres facteurs? Les campagnes électorales ont leur rôle, vous nous l'avez rappelé. Les jeunes sont particulièrement volatiles. Pourquoi? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se décide un petit peu, puis on est encore indécis?
Oui, tout à fait. Quand on est jeune, on entre dans le monde politique, il faut voter pour la première fois, on fait ses premières expériences. Alors c'est normal que ce n'est pas encore établi. C'est aussi une période où il y a beaucoup de changements dans l'emploi, l'éducation, les gens déménagent, ils ont des autres partenaires, ils ont d'autres influences qui changent. Et pour ça, c'est normal qu'on change plus.
On pourrait imaginer, Ursina Kuhn, qu'un jeune vote comme dans la famille, comme papa et maman, parce que voilà, on a été nourri à une idéologie éventuellement, et ça ne se passe pas aussi simplement que ça.
Ça se passe un peu comme ça, c'est ça aussi qu'on sait depuis longtemps, mais c'est pas si facile que ça. Les parents, ils ont une influence forte sur leurs enfants, mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi l'inverse. J'ai aussi pu voir que les enfants, ils influencent aussi leurs parents, que les frères et sœurs, ils ont une influence plus forte même que des parents, qu'il y a une très forte influence entre les partenaires.
Oui, alors précisément, si on reprend ces différentes influences, c'est très intéressant parce que vous nous dites que plus les familles parlent de politique à table, parce qu'il y a des familles où on ne parle pas de politique, c'est même parfois tabou, mais plus on en parle à table, plus ce sont les enfants qui vont avoir tendance à influencer leurs parents.
Oui, alors pour toutes ces influences dont j'ai parlé, l'influence des parents aux enfants, ça c'est souvent assez inconscient, c'est peut-être à travers des valeurs et imprécis. Alors ça, c'est pas forcément modéré par les discussions politiques. Mais pour les autres influences, entre frères et sœurs et des enfants ou parents, il faut une discussion politique. Pour ça, on voit vraiment comment ça se passe. On dit qu'ils parlent ensemble, votent ensemble et on voit ça très clairement.
Au sein, dans les résultats, alors en tout cas lorsque vous leur posez la question. Donc on pourrait dire par exemple, ça c'est une constante, quand même, plus l'âge augmente, moins on est volatile, plus on sera fidèle malgré tout au fil du temps, au parti qu'on a choisi.
Avec l'âge.
Avec l'âge, oui.
Oui.
Puisque
oui.
Les jeunes sont les plus volatiles, oui. À la limite, lorsqu'on a un certain âge. À 80 ans, c'est bon, on a choisi, on bouge plus, on vote pour les 20 dernières années de sa vie, le même parti.
Oui, en fait, on garde quand même une probabilité assez forte de changer. C'est seulement que les gens jusqu'à 30 ans échangent plus. Après, ça diminue, mais ça reste à un niveau considérable. Et après 60 ou 80 ans, ça reste...
Là, c'est stable. Là, c'est stable. On a définitivement choisi. Et on sait que les seniors votent de manière importante. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour les partis, s'il y a des gens qui sont dans les partis qui nous écoutent, c'est de se dire, là où il faut travailler, où il faut tenter de faire des campagnes électorales, c'est sur les jeunes, parce que c'est là où ça change, c'est là où il faut fidéliser. En plus, les jeunes votent peu proportionnellement par rapport aux aînés. Donc, c'est vraiment leur public cible, en tout cas des campagnes. C'est là qu'ils doivent cibler.
Oui, c'est ça qui m'étonne, parce que souvent, on parle, il y a beaucoup de vieux qui votent. Alors, on s'adresse plus à eux. Mais les jeunes, ils sont plus facilement influençables. Et après, ils ont un effet multiplicateur. Ils parlent entre eux, ils transmettent ça à leurs amis, à leurs frères et sœurs et même à leurs parents. Et une fois qu'on les a convaincus, il y a une grande chance qu'ils restent fidèles en un parti.
Donc, il faut cibler les jeunes pour les partis qui nous écoutent. Et puis, les ménages, ça c'est aussi intéressant, les partenaires. Donc, on a le partenaire, le ménage, on va dire classique. Les gens, s'ils sont ensemble, on pourrait imaginer qu'ils votent. On imagine mal un couple. Enfin, je sais pas, peut-être que vous en avez rencontré où quelqu'un vote très à gauche et l'autre très à droite. Ça existe?
Oui, ça existe.
Ça existe.
Mais la normalité, c'est quand même d'abord les partenaires se sélectionnent aussi. Déjà, il y a en effet des sélections qui sont similaires, mais après, on voit aussi qu'ils s'adaptent au fil du temps.
Oui, alors ça, c'est intéressant. Dans une vision assez classique qui est sans doute un peu sexiste, on peut s'imaginer que l'homme influence la femme, puisque pendant des décennies, et en Suisse, on le sait, les femmes ont le droit de vote depuis seulement 1971, les hommes étaient, c'était l'affaire d'homme, la politique. C'est toujours le cas. Est-ce que l'homme a plus d'influence que la femme dans un couple?
Non, quand je regardais maintenant, il n'y a aucune influence significative. C'est la même chose pour les hommes et les femmes. L'exception était les femmes plus âgées, effectivement ceux qui n'ont pas pu voter depuis leur jeunesse et peut-être sont restés à la maison. Et l'autre différence, c'est pour les enfants aux parents. Alors c'est les mères qui sont plus influencées que les pères par leurs enfants, ce qui s'explique sûrement par le fait que les mères passent quand même plus de temps à table ou avec leurs enfants pour être influencées.
Et plus les couples restent longtemps ensemble, lorsqu'il y a un couple qui est vraiment très soudé, moins ils changent de parti. Donc ils sont fidèles à la fois au couple et à la fois au parti.
Exactement. Alors l'effet le plus fort stabilisateur que j'ai vu, c'est vraiment deux partenaires qui supportent les mêmes partis. Là, il y a une très faible chance qu'un des deux change. Mais s'ils ne sont pas d'accord, un des deux va s'adapter à l'autre au fil du temps.
Comment vous avez su ça dans votre enquête? Lorsque vous faites l'enquête d'un ménage, vous demandez à pouvoir parler à chaque personne du ménage. Lorsqu'il y a quatre personnes, c'est l'une après l'autre qui dit, ben voilà, ben moi je vote plutôt ça. Et puis ensuite, vous gardez pour la même famille les données pendant toutes ces années?
Exactement, c'est comment ça se passe. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu voir ça. C'est un panel suisse de ménage, alors on interroge tout le monde à partir de 14 ans et on suit tout le monde. Dans le temps.
Ah donc, vous avez même pu déceler des influences entre frères et sœurs, ça existe aussi, donc d'une fratrie qui ne voterait pas la même chose. Comment ça se passe? Qui influence qui à ce moment-là?
Alors là, il n'y a pas du tout de différence entre hommes et femmes, là c'est la même chose, mais les frères et sœurs ont une très forte influence, plus fort que les parents, s'ils parlent politique seulement. Ouais.
Donc là, on revient à ça. Les familles qui parlent politique ont tendance à... Peut-être qu'ils s'influencent l'un l'autre au fil des années, les uns les autres, chaque membre de la famille. Et puis, c'est là qu'on observe une certaine volatilité. Si on ne parle pas de politique, on est un peu plus fidèle au parti ou au groupe politique auquel on appartient. C'est ça?
Oui, c'est ça.
Pour Sina Kuhn, vous avez été volatile depuis que vous votez? Vous avez déjà changé de parti?
Oui, où je mélange des partis, j'ai changé aussi de canton, alors ça fait aussi changer. On n'a pas toujours les mêmes offres, le parti a changé.
Vous êtes donc vous n'êtes pas encore stabilisé, vous avez l'impression que dans quelques années, c'est bon, vous aurez choisi le parti, vous serez stabilisé un peu comme le monde, votre étude.
Oui, peut-être que je fais partie de la groupe des fortement intéressés qui changent dans leur champ de parti, mais qui regardent de proche les candidats et les opinions qu'ils expriment.
Cette étude, c'était donc votre thèse, vous l'avez défendue, Ursina Kuhn. Elle va peut-être un jour sortir, elle attend un éditeur, c'est ça, elle pourrait être publiée prochainement?
Oui, je suis en train de finir le manuscrit pour le publier comme livre.
Puis vous êtes toujours en train de travailler pour le FORCE, la Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales, qui est basée à l'Université de Lausanne. Actuellement, vous êtes en train de travailler sur les inégalités des revenus. Puis vous allez continuer donc à fouiller, en fin de compte, toute cette extraordinaire base de données des familles.
Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire et comme on suit les mêmes personnes d'un ménage et dans le temps, ça donne beaucoup d'opportunités, j'ai beaucoup d'idées.
Par exemple, qu'est-ce qu'on peut savoir avec ces 10 000 personnes qui sont représentatives un peu de la Suisse?
Pour l'instant, on est en train de regarder l'influence entre couples pour comment ils se ressemblent en termes d'éducation, de potentiel de gain, comment les revenus d'un couple se ressemblent, et aussi le choix de combien d'heures qu'on travaille dépendent un de l'autre.
Avec des données, je pense, très intéressantes, effectivement. D'autres exemples, c'est intéressant, cette base de données.
L'autre effet qu'on a aussi regardé sur la satisfaction avec la vie, qu'on regardait si quelqu'un devient plus riche, est-ce que ça rend effectivement plus heureux? C'est une autre étude que j'ai travaillée.
Ça, les conclusions sont très attendues. Est-ce qu'on est plus heureux? Vous avez déjà des prémices? Oui,
oui, on a fait l'analyse. Oui, ça a un effet. Ouais. C'est un effet clair, Mais c'est quand même moins important que l'état de santé, par exemple.
La santé d'abord, mais enfin, si on a un peu d'argent pour pas avoir des mois trop difficiles, ça aide pour le bonheur. Mais on vous réinvitera quand votre étude sera terminée. Merci beaucoup, Ursina Kuhn, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de tous ces chiffres.
Merci de m'avoir invité.
Et 11h28 sur la première, Jeder Rappenzell, Jean-Marc Richard.
Et chaque centime compte.
Exactement.
Comme vous l'avez bien dit en allemand, je vais le dire en français, avec un numéro de téléphone, c'est le 0800 87 07 07, 0800 87 07 07. Alors, c'est les jeunes en rupture. Et c'est intéressant d'écouter votre interlocutrice, oui, parce que en fait, il y a toute cette image qu'on donne des jeunes. Alors, pourquoi les jeunes votent-ils? Pourquoi ne votent-ils pas? Et pourquoi est-ce qu'on a une image très négative des jeunes, souvent, alors que c'est qu'une petite minorité? Et encore, quand des jeunes posent des problèmes, on parle plus facilement des problèmes qu'ils posent, des difficultés qu'ils provoquent chez les gens, plutôt que de leur souffrance et de leur vécu. Alors que c'est ça, fondamentalement, qu'on essaye d'aborder avec cette journée de la chaîne du bonheur. On parle de la Suisse et du monde. Alors c'est plus facile à expliquer pour le monde, quand vous êtes dans les 6 millions de déplacés en Colombie et puis que vous vous retrouvez dans un bidonville sans emploi et sans moyens de subsistance. Mais en Suisse, c'est un peu plus complexe et pourtant, c'est un message qui est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour aider des jeunes qui sont en rupture, qui ont par exemple arrêté l'école, en rupture familiale, psychosociale, en rupture professionnelle, ça suffit pas de dire « reprenez le travail ».
Et on l'a compris, les politiciens doivent s'intéresser aux jeunes pour toutes sortes de raisons, pour les raisons que vous évoquez, mais aussi parce que ce sont des électeurs et qu'ils votent pas assez.
Oui, et puis aussi parce que des fois, on se trompe un peu, et je pense que c'est aussi les politiciens qui, à mon avis, se trompent un peu, quand on dit qu'en diminuant le soutien social de 200, 300, 400 francs, ça empêchera les jeunes de rester au social, mais la grande majorité des jeunes qui sont au social ou au chômage, ils n'ont pas envie d'y rester. Parce qu'ils ont envie de s'en sortir, de retrouver l'estime d'eux-mêmes, de retrouver la force, de se réinsérer dans la vie.
On rappelle le numéro, Jean-Marc Richard.
0800 87 07 07 0800 87 07 07.
Merci. Et on vous retrouve toute la journée. Merci beaucoup. Dans un instant, les décodeurs, excellent.